à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel. D'ATH.
Salut.
Et de Mordren.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, je vous parlerai de mes réflexions sur le financement participatif. On enchaînera ensuite sur Double Kick Heroes. Nous parlerons de Ninja Theory, de Mario Odyssey, de notre vidéo recommandée de la semaine. Et oui, ça arrive qu'on repère des trucs sur Internet et qu'on vous les fasse partager, n'est-ce pas? Nous évoquerons également la curation sur Steam. Nous parlerons du cas de Rockstar qui a parlé des DLC solo sur GTA V. Spoiler alert, il n'y en aura pas. On parlera du jeu dont tout le monde se fout, c'est-à-dire Metal Gear Survive. On est juste là pour le trajet, hein, évidemment. On enchaînera ensuite sur Electronic Arts. Et enfin, on terminera sur un article fave de Kotaku sur l'enfer de Visceral. Un article qui, personnellement, a répondu à une de mes questions. Pourquoi a-t-on fermé ce studio? Allez, c'est parti. On va commencer avec ma réflexion de la semaine sur le financement participatif. Alors, de quoi je voulais vous parler cette semaine par rapport au financement participatif? Il se trouve que sur Canard PC, il y a un développeur qui a débarqué récemment et qui a parlé de son jeu qui s'appelle Saint-Georges. Alors, c'est un jeu d'action plateforme classique, ma foi, il y a un petit air de Ghosts and Ghosts, etc. C'est un projet qui, personnellement, m'a pas séduit, mais après tout, c'est sympathique, la direction artistique est chouette, après, ça réinvente pas la roue, mais c'est pas ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est de la manière dont est fait ce financement participatif. Alors, c'est un projet qui demande beaucoup d'argent. Il demande 130 000 euros. C'est ouais. Beaucoup. Surtout que là, on est en euros, on n'est pas en dollars. Mmh. La plupart des projets qui sont autour de cette somme, ils sont en dollars. Ensuite, il y a un autre problème, c'est un projet dont on n'a jamais entendu parler, et c'est de ça dont je voulais parler. S'il vous plaît, s'il y a des développeurs qui nous écoutent, par pitié, faites en sorte, avant de lancer un Kickstarter, de construire une communauté. Je répondais justement à ce développeur sur le forum de Canard PC, et je lui citais l'exemple de My Time at Portia, un projet dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui, comme eux, proposait une démo. Ça, je précise, c'est très important. Ils ont fait l'effort de proposer une démo. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez la voir, je vous mettrai le lien. A priori, ils ont tout bon. Sauf qu'il y a un truc où ils ont pas bon, c'est qu'ils débarquent comme ça. Et par exemple, si je vais sur les forums de Steam, je vois qu'il y a quasiment aucun post. Et pourquoi il y a quasiment aucun post? Parce que la démo, ils l'ont postée en même temps que le lancement du Kickstarter et que personne sur Steam ne les connaît. Alors que tu prends l'exemple de My Time at Portia, le Kickstarter, il a été lancé le mois dernier. Sauf que la démo, elle est disponible depuis le mois de juin. Et il y a eu des mises à jour, ils ont réuni une communauté autour et surtout, à la base, c'est un studio qui a déjà de l'expérience sur Kickstarter. Ils ont déjà sorti un projet. Bon, avec quelques difficultés, mais ils ont déjà sorti un. Donc, à un moment donné, à moins que ton jeu soit absolument extraordinaire, qu'il époustoufle tout le monde et que toute la presse en parle, tu es obligé de construire une communauté au préalable. Pour avoir une communauté, si tu veux, qui va parler de ton jeu, qui va le relayer dans la presse, qui va parler à ses potes, etc., qui va dire « Regarde, ce jeu, ça a l'air chouette ». Ne jamais commencer un Kickstarter en étant un inconnu total. Et je dis bien total. Je pense que le projet va se planter, hein, je suis très honnête avec vous, parce que 130 000 euros déjà à la base, je pense que c'est très difficile. Surtout que même si ce que j'ai vu est sympathique, ma foi, j'ai pas vu, tu sais, comment dire, le truc qui va me faire dire, alors je vais financer ce jeu plutôt que d'aller acheter un jeu similaire sur Steam, par exemple. Tu vois.
Ouais.
C'est dommage parce que franchement, je trouve que la page du Kickstarter, elle est super propre. Ils sont honnêtes sur la somme qu'ils demandent. Il y a une démo, a priori ils avaient tout bon, mais à un moment donné, on peut plus débarquer sur Kickstarter comme ça, en étant un inconnu total. Voilà, c'était ma réflexion de la semaine sur le financement participatif, et nous allons passer à la suite, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, messieurs.
Non, je suis super d'accord avec toi, mais ça vaut pas que pour Kickstarter, hein, ça marche aussi pour tout le financement participatif, je pense notamment à Tipeee, pour les créateurs de contenu, notamment les vidéastes sur YouTube. Ça ne sert à rien de lancer un Tipeee si tu as deux abonnés. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Saint-Georges. C'est que, effectivement, ils ont tout bon. En fait, ils ont bien évalué ce qu'est une page Kickstarter qui est qualitative et un projet qui est capable de montrer ce qu'il a dans le ventre. Le problème, c'est que pour avoir un effet boule de neige, en fait, il faut que les gens en parlent. Et pour que les gens en parlent, il faut que déjà t'aies une assise en fait d'early adopters, et les early adopters, ça va être la communauté que tu t'es déjà créée. Et alors je comprends bien que c'est hyper compliqué de se créer une communauté quand c'est un de tes premiers projets. Le problème, c'est que tu peux pas y échapper en fait. Là, tu te rends compte que ils ont effectivement 25 contributeurs, mais c'est très très loin d'enclencher un effet boule de neige, quoi.
Bah, 25 contributeurs, sur la page Kickstarter, zéro commentaire, sur Steam, quasiment aucun commentaire de la démo. Ouais. Pourquoi j'ai voulu parler de ça aussi? Parce que ça me fait mal quand je vois ça. Parce que même s'ils réussissent pas, ça serait bien quand même qu'un projet comme ça ait un petit nombre de personnes, tu vois, qui les soutiennent derrière. Et là, quand je vois des gens qui font des efforts comme ça et qui sont pas récompensés, tout ça parce qu'ils ont pas eu la com adéquate, en fait,
ouais.
Moi, ça me fait chier, tu vois, de voir ça.
Bah, ça peut être extrêmement déprimant pour le porteur de projet, quoi.
Ah ouais, carrément. Bon, allez, Pixel, on va parler d'un autre jeu indé. Bon, sauf que celui-là, il n'est pas en financement participatif. Ça s'appelle Double Kick Heroes.
Fuck yeah, mec. Fuck yeah.
Alors ça, c'est un projet pour toi. Hein. Enfin, ouais. Je sais pas, il y a un air 90...
80, pur jus.
80
Limite.
Ah oui, sauf... oui, t'as raison. Bah, c'est vrai qu'il y a peu de néons.
Il y a peu de néons. Ah, s'il y a des néons, c'est 80. Voilà. C'est un mix entre shoot'em up, jeu de musical rythmique. En graphisme, c'est du pixel art très joli pour du pixel art. Vous aurez remarqué un très joli pour du pixel art.
Voilà.
Voilà. Et c'est un jeu de shoot, hein, rythmique. C'est qu'il y a de la musique métal qui se met en route. Comme dans Guitar Hero, vous avez des touches et il faut appuyer au bon moment. Enfin, c'est plus basé sur le rythme que sur les bonnes touches sur lesquelles il faut appuyer.
Et quand tu appuies en rythme, il y a les mecs qui se mettent à tirer et tout, parce qu'ils sont poursuivis par des zombies, des chiens mutants et autres choses de joyeuseté.
C'est un monde post-apo, donc eux, ils sont sur une autoroute et ils sont sur une vieille Cadillac. Il y a toute la lie de la terre post-apo qui les attaque et à chaque fois que vous faites une bonne note, enfin un bon rythme, les gentils tirent sur le méchant, pour faire simple. À chaque fois que vous ratez, ben les méchants, ils se rapprochent et puis ils tirent sur vous aussi. Et donc au bout d'un moment, ce sera game over si vous êtes nul en rythme, quoi.
Bon, il faudra voir la bande-son qui va avec. Hein. En tout cas, le concept est très chouette.
Ouais, et il y a une bonne nouvelle, parce que si la bande-son vous plaît pas, il y a un mode éditeur. Mmh. Où vous pouvez transférer vos propres musiques et créer votre propre rythmique à partir de la rythmique de la chanson que vous avez transférée dans le jeu. Et donc, ça peut être très intéressant, puisque vous pouvez mettre toutes les musiques que vous voulez.
Voilà. Donc, si jamais le métal, c'est pas votre tasse de thé, vous pouvez faire autre chose. Quoique, honnêtement, quand tu vois le look du jeu, faut faire du métal, hein. C'est obligé.
Ce qui serait cool, ce serait que ça soit compatible avec les instruments de musique, là, tu sais, le truc,
Ah ouais.
Le rock band et tout ça, là, enfin, tu sais, les guitares qui...
Il y a surtout la batterie.
Hein. Grave, ah oui.
Pour des rythmes.
Ah, fabuleux.
Mais il est pas encore sorti, hein, parce que là, il est en phase de bêta, hein, plus ou moins fermé, d'après ce que j'ai compris. Il y a sa page Steam
qui est up,
mais on peut pas l'acheter pour l'instant,
etc. Voilà. Donc c'est un projet qu'on a repéré comme ça et ça a l'air chouette. Par contre, Pixel, alors là on va passer chez les gros indés, n'est-ce pas? Et on a des nouvelles de Ninja Theory.
Voilà, Ninja Theory, des anciens triple A, on va dire, se sont reconvertis dans l'indé parce que bah ils avaient plus de sous, forcément. Donc ils ont fait dernièrement Hellblade. C'est Nuaz Sacrifice, et c'est un jeu qui a dépassé toutes leurs attentes, puisqu'ils ont gagné beaucoup plus d'argent que prévu.
En gros, en 3 mois, ils ont réussi à recouvrer tout ce qu'ils avaient dépensé, alors qu'ils pensaient le faire en 6 mois. C'est dire que le jeu a été un succès pour eux. Et je précise que Hellblade, c'est un jeu qui a coûté très très cher. Il y a eu un article récemment sur Games Industry où Brian Fargo parlait des budgets indépendant qui grossissait de plus en plus. Il parlait justement de Divinity Original Sin 2 et de Hellblade. Il disait qu'il pensait que ces deux jeux-là, ils avaient dépassé 10 millions de dollars et que ça l'étonnerait pas qu'ils étaient probablement aux alentours de 20 millions. Donc, qu'ils aient recouvré leur investissement, en fait, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle et que, parce que même si moi, Hellblade, personnellement, c'est un jeu qui m'est un peu tombé des mains, ils ont trouvé une bonne idée au niveau des puzzles, ils l'ont copié-collé jusqu'à l'envie, et ça finit par me saouler, en fait. C'est un jeu, clairement, qui a des valeurs de production dedans. Enfin, tu vois que c'est pas un petit jeu indé, quoi. Il y a un travail de ouf qui a été fait là-dessus. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'un gros studio comme ça est retombé sur ses pattes, quoi. Et s'ils pouvaient, en plus, parce qu'apparemment, ils ont l'intention, de ce que j'ai lu, Pixel, de partager leurs infos.
Exactement, ils ont décidé de partager leurs infos. Bah, tous ceux qui voudront bien les récupérer.
Bah, avec un post-mortem, je crois.
Voilà, qui donnera des bons conseils aux futurs développeurs de jeux indés et afin de copier les bonnes idées et puis d'éviter les mêmes erreurs qu'ils ont commises.
Voilà.
Ils ont certainement commis des erreurs.
Voilà, c'était juste une bonne nouvelle dans ce monde de brut, n'est-ce pas?
Ouais, après la semaine dernière.
Et ce que je trouve bien, en fait, c'est un signal encourageant pour les jeux, on va dire, entre guillemets, double A, qui puissent arriver sur le devant de la scène et puissent s'en sortir. C'est sûr que, tu vois, Hellblade, ils en entendent beaucoup moins de ventes que, par exemple, Square Enix avec Tomb Raider à l'époque, qui attendait 6 millions de copies vendues.
Bah oui, parce que là, en plus, t'as pas l'éditeur qui va te pomper de l'argent. Oui.
Et puis même, le budget communication de ce genre de studio est beaucoup moins important que dans un triple A, où des fois, enfin, on tombe sur des trucs totalement aberrants avec la moitié du jeu, c'est le prix du développement du jeu, puis l'autre moitié, c'est carrément le budget marketing, si ce n'est pas plus. Et c'est ça qui coûte vraiment cher, en fait, parce qu'ils veulent beaucoup communiquer pour espérer de beaucoup en vendre. Donc, en gros, ils misent gros pour essayer d'en récupérer gros. Mais le problème, c'est que les prix des jeux augmentent terriblement. Et moi, je trouve que, voilà, Hellblade et Ninja Theory, ce qu'ils ont réussi à faire, ça a donné un signal encourageant pour les studios de moins grande envergure, et puis qu'on puisse, en fait, vraiment avoir des jeux comme à l'ancienne, quoi, entre guillemets, tu vois, des jeux solo.
Non, mais des jeux couillus, surtout, parce que Hellblade, c'est quand même un jeu qui parle de schizophrénie.
Mm-hmm.
Enfin, c'est super couillu comme thème, quoi, quand même. Moi, je trouve ça bien qu'un jeu qui ait les balls de sortir un thème comme ça soit récompensé, quoi.
Moi, je trouve ça vraiment super sympa, tu vois, que des studios comme ça, qui essaient de proposer des jeux quand même avec des beaux graphismes, une direction léchée, parce que c'est sûr que quand il y a un jeu, par exemple, type Hotline Miami qui sort, c'est sympa et tout ça, mais par exemple, si tu veux vraiment être immergé dans un monde en 3D...
Au bout d'un moment, il faut le budget, quoi.
C'est ça, malheureusement, tout fonctionne avec l'argent, mais je trouve que quand même, voilà, là, ils ont tenté un coup de poker avec Hellblade, et puis la prochaine fois, bah, peut-être qu'ils prendront encore plus de risques, et tu vois, par exemple, ce que t'avais pas aimé sur Hellblade avec les puzzles, bah, peut-être que... S'ils font un autre jeu qui s'inspire un peu de ces mécaniques-là, bah, qu'ils iront un peu plus loin dans ce genre de choses-là. Parce que quand même, tu vois, amener des nouveaux concepts, type des nouveaux puzzles, ça doit jouer sur le budget. Parce qu'il faut quand même trouver des idées. Et c'est peut-être par rapport à ça que le jeu n'a pas pu exprimer son plein potentiel. Mais bon, moi, je suis vraiment content pour Ninja Theory, en tout cas, qu'il puisse en sortir, quoi.
Ok. Bon, Mandraine, on va passer au candidat suivant. C'est Mario Odyssey. Et tu voulais nous parler d'accessibilité, je crois.
Ouais, accessibilité, parce qu'en fait... Je me suis rendu compte, et j'ai vu que c'était un sujet dont la presse parlait. En fait, la première chose que tu vois quand tu lances Mario Odyssey, c'est un énorme fond d'écran avec écrit « On vous conseille d'y jouer avec un Joy-Con dans chaque main, mais vous pouvez aussi y jouer donc en mode tablette, en mode manette, etc. » Et avec une manette pro, bien sûr. J'avais prévu d'y jouer en mode manette, et pas avec un Joy-Con dans chaque main, parce que c'est pas une configuration que j'apprécie spécialement sur la Switch. Et j'ai fait l'essai des deux, et donc je me suis rendu compte très vite qu'il y avait des mouvements que je pouvais pas faire en mode manette, parce que Mario Odyssey intègre du motion control pour faire bouger Capi, donc qui est le chapeau en fait de Mario qu'on va pouvoir lancer sur nos ennemis pour les posséder entre guillemets, pour le faire tournoyer autour de nous et frapper des ennemis, enfin bref. Donc le lancer vers le bas, le lancer vers le haut, le lancer tournoyant, c'est pas possible. Et le lancer dirigé, donc c'est un peu tête chercheuse, c'est-à-dire que vous lancez Capi vers vous, et ensuite vous donnez un petit coup de motion de contrôle, et ça va se diriger vers l'ennemi le plus proche. Mmh. Ça, c'est pas possible, en fait, quand vous n'êtes pas en motion control. Et en fait, il y a certaines lunes, puisque vous savez que vous dans Mario Odyssey, vous récupérez des lunes qui vont vous permettre ensuite d'aller plus loin dans l'aventure pour débloquer les nouveaux niveaux. Il y a certaines lunes, en fait, ça a été confirmé par Polygon, qui ne... sont pas accessibles si vous n'utilisez pas certains de ces mouvements. C'est assez chiant parce que moi je pense aux personnes qui ne peuvent pas jouer en motion control, donc qui ne peuvent pas utiliser les deux Joy-Con de cette manière-là, et c'est quand même pas très pratique, surtout qu'il y avait la possibilité d'utiliser d'autres boutons. Les boutons Y et X sont tous les deux utilisés pour faire un lancer de Capi, et les boutons B et A sont tous les deux utilisés pour faire un saut. Du coup, il y a clairement deux boutons qui sont inutilisés sur la manette. Donc, à mon
donc,
avis,
qui aurait pu être utilisé pour faire autre chose.
Voilà, il y avait clairement la possibilité de le faire.
Par contre, Mandraine, j'ai une question, parce que tu dis que tu peux y jouer à la manette pro, mais comment tu fais pour faire justement ces mouvements si tu n'as pas le motion controller sur la...
Bah, tu les fais pas.
Ouais, mais enfin, si c'est des mouvements importants pour progresser dans la suite du jeu, quoi.
Alors,
c'est...
de ce que j'ai compris, tu peux finir le jeu sans ces mouvements-là.
Ah oui,
par
sans
contre,
problème.
Si tu veux faire le 100%, tu pourras pas.
C'est exactement ça.
À la limite, tu sais, ce serait un jeu spécialement pensé pour motion control. Je comprendrais, tu vois. Il y a des contraintes qui font que tu peux pas faire ton jeu pour tout le monde. Mais là, je veux dire, les mouvements que décrit Mandraine, je suis désolé, tu peux parfaitement les retranscrire sur la manette, quoi.
Bah, surtout comme il l'a dit, c'est qu'il y a des boutons qui sont utilisés deux fois pour faire la même chose. Par exemple, le bouton A et B servent à sauter. Enfin, tu aurais pu très bien mettre le bouton A pour sauter. La plupart du temps, c'est le cas pour les Mario. Et le bouton B, bah, ça sert à virer, à lancer Capi. Puis si tu le maintiens, tu pourrais le contrôler comme il a dit. Enfin, surtout que c'est pas compliqué de, à la place de faire le mouvement en 6 axis avec les Joy-Con, tu pourrais très bien le faire avec le stick analogique gauche, tu vois. Enfin, c'est, ça serait pas compliqué. Pendant ce temps-là, Mario est inactif et tu contrôles juste la casquette, quoi.
Donc, on voulait vous parler de ça cette semaine parce que je trouve que c'est un point qui n'a pas forcément été relevé, par exemple, dans les tests. Mm. Alors que c'est quand même assez chiant, quoi.
Ouais. Voilà, et pour aller plus loin sur la problématique de l'accessibilité, je vous recommande un article Premium Gamekult qui s'appelle « Joueurs et handicapés, ils vivent le jeu vidéo en mode hard ». C'est une lecture très très enrichissante.
Bah justement, à propos de recommandations, je vous préviens, j'espère que vous n'êtes pas déprimé par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que là, ce n'est que le sommet de l'iceberg, messieurs dames. Je vais vous renvoyer vers une vidéo de Jim Sterling. Alors, Jim Sterling, on l'évoque souvent ici, mais moi, c'est un YouTuber, je suis fan de son travail. Et il a récemment fait une vidéo sur ce que nous réserve l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Alors, sans trop dire ce qu'il y a dans la vidéo, en gros, il y a une boîte qui s'appelle Scientific Revenue. Alors déjà, rien que le nom Scientific Revenue, revenu scientifique, c'est fabuleux. Et en gros, ils vendent aux développeurs une application mobile pour l'instant, mais je crois que c'est prévu...
Oui, t'inquiète pas, qu'ils trouveront le moyen de la mettre partout.
En gros, c'est une application qui va analyser vos comportements et qui va régler le prix des microtransactions en fonction de ce que vous êtes prêt à payer.
Mon Dieu.
Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils vont l'augmenter, le baisser. Jusqu'au moment où vous allez craquer, en fait. Tout simplement.
Ah, mais ça, c'est super cool.
Ah oui, non, mais c'est fabuleux. En plus, c'est dirigé par Jack Tretton. Jack Tretton, ancien CEO de Sony America. Donc voilà, je vous renvoie vers la vidéo. Je n'en dis pas plus. C'est absolument délicieux. Enfin, en plus, quand ils ont vu que Jim Sterling commençait à leur renifler le cul, ils ont une réaction qui est absolument fabuleuse. Enfin bref, moi, je vous laisse voir la vidéo. C'est absolument succulent.
Non, mais par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est-à-dire que j'aurai tous mes DLC gratuits, parce que vu que je n'achète quasiment aucun DLC. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, le tarif pour que je craque, ça sera obligatoirement à 0 euros.
Oui, mais tu vois, le problème, c'est que toi, tu n'achèteras rien, mais les baleines, elles paieront de plus en plus cher. Et c'est ça, le gros souci, quoi. Bref, on va passer à la suite, messieurs. Et on va maintenant évoquer, mon cher Mordren, la curation sur Steam. Un grand sujet, n'est-ce pas, qu'on évoque régulièrement.
Oh là,
et
oui.
Ça y est, Valve commence à bouger.
Et oui, c'est même d'ailleurs en train de bouger, puisque en ce moment, Valve est en train de tester une évolution de son système de curation. Donc, vous savez, les curateurs, ce sont ces personnes que vous pouvez suivre sur Steam, qui, en général, publient des critiques et des recommandations sur les jeux. L'objectif, évidemment, ça va être d'avoir des conseils personnalisés de gens que vous-même, vous avez identifiés comme des gens dont l'avis vous intéresse. Par exemple, là, typiquement, là, je viens d'ouvrir ma page Steam. Je suis donc le curateur Rock Paper Shotgun, un site dont on parle régulièrement sur le podcast. Et donc, la première recommandation qui vient, c'est Slime Rancher, avec une petite citation de Rock Paper Shotgun. En fait, ce que va faire Steam, c'est qu'il va regarder les jeux auxquels vous jouez régulièrement. Il va regarder les jeux que le curateur recommande, enfin, qui appartiennent au même tag que les jeux auxquels vous jouez. Et ensuite, va vous proposer des jeux qui matchent entre les deux, c'est-à-dire que le curateur a aimé et que vous auriez le potentiel d'acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est quelque chose qui va être encore plus poussé par Valve, puisqu'ils sont en train de bêta-tester, en fait, et c'est PC Gamer qui l'évoque, un système où les curateurs ont encore plus d'impact sur votre page Steam. L'objectif pour eux, ça va être de faire un effet boule de neige en accueillant beaucoup plus de curateurs. C'est-à-dire que, a priori, quiconque peut devenir un Steam curateur. C'est-à-dire que moi, si je voulais lancer ma page de curation, je pourrais le faire. Et je pourrais en faire, du coup, la pub sur YouTube pour dire, voilà, je vous parle de machin. Et du coup, l'objectif, c'est de proposer une alternative humaine à ce que fait la page de recommandation tout court de Steam, qui va simplement regarder quel tag de jeu vous intéresse et, du coup, quel jeu ils peuvent vous recommander. Donc ça, c'est fait automatiquement. C'est, en général, pas très satisfaisant. L'objectif, c'est qu'il y ait aussi quelque chose d'humain en mettant le curateur en avant. Pour le curateur, en fait, du coup, qu'est-ce que ça va changer? C'est qu'il y aura beaucoup plus d'options. Il y aura la possibilité de mettre des critiques vidéo en plus de leurs recommandations. Donc ça, c'est très bien pour les youtubeurs qui vont pouvoir faire un petit peu plus de vues encore. Il y a la possibilité d'avoir une liste de recommandations de curateurs. Donc, c'est-à-dire, en fonction de ce que vous jouez, vous, il y aura une liste de curateurs qui pourraient vous intéresser. C'est-à-dire que, typiquement, si je suis un joueur de jeu de survie, je vais plutôt avoir tendance à me baser sur les avis de curateurs qui, eux aussi, ont listé dans leurs intérêts les jeux de survie. Et en plus de ça, il y aura la possibilité pour les développeurs de regarder dans la liste des curateurs les curateurs qui sont les plus intéressés par le type de jeu que eux veulent promouvoir. Et du coup, ils vont avoir la possibilité de leur envoyer directement un jeu à tester et potentiellement recommander. Donc il va y avoir une espèce d'écosystème autour de la curation faite sur Steam, et ça a l'air de pousser un petit peu les choses dans le bon sens. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah moi en fait le volet qui m'intéresse le plus c'est côté développeur, c'est que ça facilite la vie aux développeurs pour contacter les plus gros curateurs de Steam qui en général ont une chaîne YouTube.
C'est ça.
Et qui donc vont parler de ton jeu. Bon après comme d'habitude hein, ça sera la guerre pour avoir l'attention des curateurs, mais en tout cas ça sera moins relou que de passer par des systèmes tierces, parce qu'il faut savoir qu'il y a actuellement des systèmes tierces où les gens peuvent contacter certains youtubeurs ou machin, mais c'est pas intégré directement à Steam en fait.
Ouais.
Donc là que t'aies accès aux statistiques des curateurs, etc., et que des curateurs aussi aient plusieurs infos, voilà, ça permet de faire un peu le ménage quoi.
Il y a un autre truc intéressant, c'est notamment le fait que ça soit basé sur les tags de ton jeu et des tags qui sont liés au curateur, ça a aussi l'effet, tu sais, de certaines boîtes de relations presse ont tendance à se baser uniquement sur les curateurs les plus gros et ceux qu'on la voit la plus importante. Mais faut aussi voir que c'est pas parce qu'un curateur est gros ou a une grosse audience qu'il va forcément faire vendre beaucoup de tes jeux s'il lui plaît. C'est aussi bien de parler à un mec qui ne fait que ça et qui du coup a un avis très très tranché sur la question et très précis. Du coup ça va permettre aussi aux curateurs plus underground, on va dire, d'avoir accès aussi à un dialogue avec les développeurs un petit peu plus privilégié. Et je voulais ajouter un truc, ça va toujours pas régler le problème des torrents de trucs qui arrivent sur Steam Direct.
Oui, parce que là, le problème, c'est que si les développeurs peuvent contacter les curateurs, tous les développeurs de jeux de merde, ils vont pas se gêner, hein, pour... voilà.
Donc c'est un gros problème, notamment pour la personne qui va recevoir les mails de proposition de « Tiens, est-ce que tu veux tester mon jeu ?» Parce que au final, c'est très bien pour un curateur, qu'il soit gros ou de niche, d'avoir un contact avec les développeurs. Le problème, c'est que s'il en a trop, ça va avoir en fait un effet assez pervers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a probablement des trucs qui sont bien, qu'il va pas du tout voir dans le flow de toutes ces demandes-là. Dans tout ça, c'est très bien, ça avance a priori vers un truc qui est plutôt cool. Le problème, c'est qu'il faut aussi faire en sorte que les vannes se ferment un tout petit peu quand même.
Mettre de l'humain, par exemple, ce genre de choses. Voilà, ouais. On parlait d'humain tout à l'heure. Des vrais humains qui vont regarder les jeux.
C'est
mon Dieu. Bon, allez, on va maintenant aborder le cas de Rockstar qui a fait une déclaration qui en a déçu plus d'un à TH cette semaine.
Oui, dont notamment moi. Donc, c'est Imran Sharwar, qui est coproducteur du jeu, donc de GTA V, qui a confirmé qu'il n'y aurait pas de DLC solo pour GTA V, contrairement à GTA IV qui avait eu l'extension The Lost and Damned et The Ballad of Gettoni.
Gettoni.
Et ce que je trouve assez dommage là-dedans, c'est que, bah moi, s'ils ont sorti une extension solo pour GTA V, je l'aurais acheté. Je parlais d'ailleurs avec quelqu'un sur le commentaire du précédent podcast qui est Hicham, qui nous disait que voilà, lui il n'avait acheté aucun DLC concernant le jeu vidéo, mais je lui ai dit, moi tu sais, enfin j'ai acheté pas mal de DLC, ceux qui me semblaient intéressants. Rappelons que The Lost Amdam et The Ballad of Gettoni étaient quand même interconnectés de près de loin par rapport à une quête qui se déroulait dans l'aventure principale. The Lost Amdam avait rapporté à GTA 4 le côté biker et l'esprit band. Gettoni, c'était toutes les missions fun qui manquaient un peu à GTA 4 de base.
Ouais, moi c'est pour ça que j'avais vraiment apprécié les extensions de GTA 4 parce que l'ambiance de GTA 4, j'étais pas forcément le plus grand fan. Et là, t'as Ballad of Gettoni qui débarque et qui met dans le jeu tout le fun qui manquait dedans, en fait, quoi.
GTA 4 était assez austère, c'est vrai que les deux extensions apportaient vraiment une chaleur un peu différente, quoi.
Bah, GTA 4, il avait vraiment ce côté film noir, quoi. Quand on découvrait l'histoire de Nico Bellic, qui était vraiment assez tragique. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, quand il y a des DLC comme ça qui font type extension, tels que les Dark Souls, ça donne envie d'acheter, parce que tu sais que, voilà, t'en as pour ton argent, et les mecs ont quand même bossé dessus, donc ça mérite que le travail soit récompensé. The Witcher 3, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, ils ont rajouté vraiment une autre partie de The Witcher dans le jeu de base.
C'est limite un spin-off Blood and Wine en plus.
Ah non,
enfin,
mais c'est
une ambiance totalement différente.
Et c'est ça qui est bien dans le DLC, c'est que tu vois, ils se permettent de mettre des choses qui n'ont pas mis dans le contenu de base, souvent parce que voilà, le contenu de base c'est souvent des jeux trop sérieux, alors que tu vois avec les DLC, ils s'autorisent certaines folies. Et donc le coproducteur du jeu nous a dit pourquoi les DLC de GTA 5 ne sortiront pas, c'est parce qu'il y a eu d'abord le portage sur PS4, PC et Xbox One, après les versions qui étaient sorties donc sur la 360 et la PS3.
Qui a demandé beaucoup de ressources.
Voilà, ça leur a pris beaucoup de temps, plus le développement de la partie en ligne qui est vraiment devenue exponentielle, qui a apporté tellement d'argent à Rockstar, parce qu'ils continuent à en vendre des GTA 5 par palette encore.
Oui, c'est clairement grâce au monde en ligne. Hein.
Et ce qui fait que voilà, bah, les contenus de solo de GTA 5 n'a pas pu être fait, parce que il y a quand même eu... ils avaient l'idée à la base de le faire quand même, ils n'ont pas pu vraiment aboutir à cause des problèmes que je viens de citer.
Ça, plus le fait qu'il y a Red Dead Redemption qui arrive, enfin, leurs ressources sont ailleurs, quoi, en fait.
C'est ça, simplement. C'est que voilà, bah, après, enfin, 4 ans après, ça fait quand même beaucoup pour sortir, si tu veux, un DLC sur le solo. Les gens, le solo, ils l'ont terminé, donc ils sont soit sur le mode en ligne, soit les gens sont passés à d'autres choses. J'avais déjà tourné la page, si tu veux, sur GTA 5, quoi. Je me suis dit que voilà, le DLC, ça fait un petit moment qu'on l'attend, et il arrive pas. Apparemment, ça devait être un DLC qui était centré sur le personnage de Franklin, et avec une histoire qui devait faire intervenir CG de San Andreas, parce que comme quoi, en fait, il faut savoir que le cousin de Franklin, mais de l'acteur, et bah c'était celui qui avait fait CG à l'époque, et c'est vraiment des cousins. D'accord. Dans la vraie vie, et apparemment tu vois que pour le clin d'œil ils avaient voulu faire un petit peu par rapport à San Andreas et puis à GTA 5 le côté on retrouve un peu les deux compères dans une quête un peu développée qui, j'aurais espéré, aurait développé un peu plus l'intrigue de Franklin, parce que c'est vrai que
moi c'est le personnage le plus raté, je trouve. Enfin, moi franchement, les phases de Franklin, c'est les moments où je me disais pfff.
Ouais, c'est carrément le moins bon personnage des trois dans son écriture, quoi. Mais bon, voilà, donc GTA 5, pas de DLC.
Pixel, notre adepte du mode en ligne, justement, je voulais avoir ton point de vue, toi qui plutôt penché sur le multijoueur. Ça t'intéressait pas du tout, le solo, avoir un nouveau DLC, etc.
Pour te dire la vérité, j'y pensais pas du tout au DLC solo de GTA 5. J'ai jamais pensé.
D'accord.
J'ai jamais pensé que ça pouvait arriver un jour, et bon, bah, Rockstar a dit non, bah ce sera non, mais... À la limite, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je préfère qu'ils balancent leur thune peut-être dans GTA 6, qu'ils sont en train de développer, et j'espère qu'ils le sortiront peut-être l'année prochaine, j'aimerais bien. Voilà, tu vois.
Oui, bien sûr.
Non, mais d'abord, il y a Red Dead 2, donc commence pas à rêver déjà.
Red Dead 2.
De 2, tu t'es fait banni de GTA 5 en ligne, donc tu te calmes. Parce que c'est pas pour jouer à GTA
6
pour te faire banni encore.
Je me suis fait bannir de GTA Online, mais c'était une fois au chalet. Alors, hein. Bon.
Donc, mais t'inquiète pas que sur GTA 6, tu vas te faire bannir aussi.
Non, mais c'est intéressant d'avoir le... Enfin, tu vois, il y a vraiment deux communautés pour moi sur GTA. T'as ceux qui sont arrivés pour le mode en ligne et qui, franchement, le solo, ils s'en battent les couilles.
Ouais.
Et je connais des gens, tu sais, qui n'ont même pas touché à la campagne solo.
Mais il y en a tellement des gens comme ça.
Parce que juste, ça les intéresse pas, quoi. Enfin, ce qui les attire, c'est le fait de jouer ensemble, etc. Donc du coup, qu'ils sortent un contenu solo pour GTA 5 ou pas, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Et de l'autre côté, il y a les anciens comme nous, on va dire, qui ont toujours joué à GTA pour le solo. Même si moi, je vous avoue que le 5, il m'est un peu tombé des mains, mais ça, c'est plus parce que j'ai un problème avec la structure des open world Rockstar. Mais... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement le solo, quoi. Même si le multi, j'y ai passé plus de temps pour le coup que le solo, au bout d'un moment, j'ai fini par laisser tomber parce que c'est un truc beaucoup trop chronophage et j'ai l'impression de jouer à un MMO, en fait.
Ouais, mais du coup, il y a une vraie question à se poser sur, du coup, le futur de Rockstar et ce que Red Dead Redemption 2 va faire. A priori, ils vont suivre dans ces pas-là, quoi.
Apparemment, d'après les déclarations du coproducteur du jeu, c'était vraiment un concours de circonstances.
Il y avait certainement un manque de ressources, t'as raison, ouais.
Ouais, c'est, non, mais c'est juste que, enfin, tant qu'ils pourront faire du cash, ils vont pas s'en priver, quoi. Et enfin, moi, ça me dérange pas qu'ils fassent du cash, surtout quand ils font des contenus de qualité,
ouais,
comme ça,
quoi. Tant que c'est quali, y a pas de problème.
Moi, ça me dérange pas, hein.
Bon. On va enchaîner sur la news troll, on va pas y passer 3 heures non plus, messieurs. Morren, il y a un jeu qui s'appelle Metal Gear Survive dont tout le monde se fout.
Ouais.
Mais je sais pas, Konami, ils insistent sur ce jeu et en plus, ils font tout pour le tuer. Donc
Ouais. Ouais, c'est le tuer dans l'œuf, c'est parce que le jeu est censé sortir sur PC le 20 février 2018 et en fait on vient d'apprendre que le jeu, donc il y a une partie solo et une partie multijoueur, coop.
Il sort sur PS4 aussi, hein, enfin
oui,
sur
oui.
console. Voilà.
Oui, pardon. C'est parce que je suis sur un site qui ne parle que de PC, et du coup, il y avait que la date de sa sortie sur PC. Bref, en fait, ils ont décidé que la connexion en ligne qui était requise évidemment pour jouer au multijoueur serait également requise en mode solo. Et alors, petit communiqué de Konami avant de lâcher les chiens, hein, avant de vous donner la parole. A priori, donc, le mode solo et le mode coop utilisent les mêmes statistiques de joueurs, ce qui fait que, selon eux, ils sont obligés de vous forcer à vous connecter en solo.
Bullshit.
Sinon, c'est pas possible. Voilà, je vous laisse faire.
Non, mais y a rien à ajouter, je veux dire. Enfin, est-ce que quelqu'un ici, sérieusement, attend Metal Gear Survive? Je pose sérieusement la question.
Absolument pas.
Voilà, tout le monde s'en bat les couilles de Metal Gear Survive. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Konami, de toute façon. Je veux dire, c'est une boîte qui n'intéresse plus personne. Leur producteur star s'est barré. Ils ne font plus rien d'intéressant à part PES.
Et encore?
Non, on va pas rentrer dans les débats footballistiques, n'est-ce pas, s'il
vous
plaît.
Je vais vous faire un résumé, pourquoi...
mais, je veux dire, Metal Gear Survive, déjà, à la base, c'est une anomalie. On sait même pas... En fait, je sais pas pour vous, mais Metal Gear Survive, pour moi, en fait, c'est... Le jeu, ils se sont dit, alors, il y a un genre qui a l'air de marcher, ça s'appelle les jeux de survie. Du coup, on va prendre Metal Gear, on va mettre Survive derrière, on va faire un jeu de survie avec. Moi, c'est la seule explication que je vois à ce projet-là.
Ouais.
Et le truc, c'est que je comprends même pas pourquoi ils font ça, parce que très clairement, à côté de ça, ils ont bien fait comprendre que le jeu traditionnel, ils s'en foutaient et qu'ils étaient là pour faire de la thune sur le mobile, en fait. Donc je sais même pas pourquoi ils s'enquiquinent à faire ça, parce que tout le monde s'en fout en fait.
Bah parce qu'en fait Metal Gear Solid 5 a quand même fait des bonnes ventes, donc ils voulaient continuer quand même vraiment à surfer un peu sur le succès du jeu. Après, enfin moi ce que Metal Gear Survive, je m'en fous complètement en Royal. Alors pourtant Metal Gear Solid c'est peut-être une des séries que j'apprécie le plus. Par contre, comment dire, ce que je trouve assez aberrant, c'est la déclaration de Konami tout bêtement, c'est comme quoi le jeu utiliserait les mêmes statistiques que le solo et pour le multijoueur. Et que donc, par rapport à ça, on était obligé de jouer, même connecté, même pour jouer contenu solo.
Je sais pas, hein, Diablo 3 sur console, il a un mode solo hors ligne. Hein. Encore sur PC, je peux te dire, à la limite, le réseau peut à peu près
non,
se
même
défendre.
Sur PC, il n'y a pas question de PC ou quoi que ce soit.
Mais parce que tu peux altérer les fichiers. Dès que tu as un contenu en solo sur PC, si tu altères tes statistiques, par exemple, ça pose un problème. Mais après, ça c'est la réponse que je donne à chaque fois, c'est un faux problème. À ce moment-là, tu fais deux modes. Tu fais un mode solo où ton personnage ne pourra pas accéder au mode en ligne, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, le mec qui veut seulement jouer au solo et qui en a rien à foutre du jeu en ligne, eh ben, il fait un personnage solo et puis point barre, le problème est réglé. Et le mec qui veut jouer au mode en ligne avec son personnage solo, bah, à ce moment-là, il joue en ligne. Problème solved. C'est ce qui a été fait sur Diablo 2, par exemple, et ça marchait très bien.
Ou sinon, les mecs, ils font juste leur travail, ils bannissent les mecs qui ont modifié leur fichier, leur jeu.
Tu peux pas contrôler ça, TH. À un moment donné, à moment donné, à moins d'espionner les gens,
Il n'y a pas question d'espionner ou quoi, c'est que quand tu joues en ligne, t'as des statistiques qui apparaissent. Si tu vois que le mec il meurt jamais ou ce genre de choses là, tu poses quand même des questions quoi. Mais enfin bref, c'est juste que Konami, il trouve ce prétexte là juste pour te mettre le contenu en ligne et pour te fliquer même quand tu joues en ligne. Enfin en solo je veux dire. C'est pour avoir un contrôle et la mainmise sur leur jeu, c'est tout.
Bon, allez, on va passer à la suite et on va parler de Electronic Arts. Alors, c'est une news qu'on va faire en vitesse. À la base, j'avais prévu de brûler Electronic Arts, mais finalement, c'est moins scandaleux que ce qui en a l'air.
Ouais.
Il se trouve qu'il y a un service qui rétablissait le mode en ligne sur certains anciens jeux d'Electronic Arts, notamment la série Battlefield, etc. Et il se trouve que ce service a reçu une lettre des avocats d'Electronic Arts qui leur expliquait que, en gros, il fallait qu'ils arrêtent de distribuer le client des jeux. Il disait pas arrêter de modifier le jeu pour permettre de jouer en ligne. Il disait arrêter de distribuer les jeux gratuitement et arrêter de mettre notre logo à nous sur votre site pour pas qu'il y ait une confusion entre votre site et Electronic Arts. Vous n'êtes pas un service officiel d'Electronic Arts. Pour une fois, ils ont l'air relativement sympas chez Electronic Arts, donc voilà. Surtout que à côté de ça, il y a la réaction qui a été postée par les personnes qui sont derrière le projet, donc le Revive Network, qui ont dit tout simplement qu'ils ont arrêté, pas parce que Electronic Arts aura demandé, mais parce qu'ils avaient dit que à partir du moment où ils recevraient une lettre de ce type, ils arrêteraient. Ils respectent leur engagement, c'est très bien. Maintenant, je trouve qu'il y a un problème qui se pose, c'est la question du domaine public. Moi, qu'Electronic Arts leur dise d'arrêter de distribuer le client, je trouve ça normal, parce que si ils ne demandent pas ça, imaginons que quelqu'un se mette à distribuer les clients de jeux plus récents, par exemple. Légalement, si tu veux, ils peuvent dire, mais vous avez pas arrêtez ces gens-là qui distribuaient vos jeux gratuitement. Pourquoi vous nous stoppez là ? Donc il le fasse, ça je le comprends très bien. Par contre, c'est un problème qui ne se poserait pas si les jeux, au bout d'un moment, tombaient dans le domaine public. Tout simplement. Parce que à partir du moment où ton jeu est dans le domaine public, tout le monde peut distribuer les fichiers comme il en a envie. En plus, ça emmerde personne, parce que je veux dire, c'est des jeux qui sont plus commercialisés de toute façon. Enfin bref, pour moi, c'est la grosse problématique de la conservation du jeu vidéo, parce que pour le coup, ce sont des jeux multijoueurs. Ce qu'ils font là, ces gens-là, je trouve que c'est important pour le jeu vidéo, qu'il y ait des gens qui maintiennent ces jeux en vie pour qu'on ait une histoire du jeu vidéo et que les jeux en ligne ne soient pas exclus de cette histoire-là, en fait, tout simplement. Et le fait que la loi empêche la conservation de ces jeux-là, ma foi, c'est un gros problème. Quelque chose à ajouter, messieurs ?
Non, tu as tout dit, mon cher Thierry.
Ok, on va terminer avec le gros morceau, et le gros morceau, c'est Visceral. La semaine dernière, je posais une question très simple. Pourquoi t'ont fermé le studio ? J'ai enfin ma réponse. Il y a
une longue
un
réponse,
article fleuve qui a été publié sur Kotaku qui explique que la situation chez Visceral, qui a enquêté en profondeur. Alors visiblement, c'est beaucoup plus que ce que Electronic Arts a voulu bien en dire, n'est-ce pas ? Visiblement, il y a eu des soucis de développement. Bon, ça, on s'en doutait un peu quand même. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y avait quand même des soucis pour qu'ils aient annulé un projet comme ça. Mais par contre, c'était visiblement un peu plus grave que ça. Alors, je vais pas vous faire le détail de l'article parce qu'il est trois fois trop long et de toute façon, vous allez vous le taper comme moi je me le suis tapé, hein, vous y échapperez pas.
C'est un bouquin le truc.
Ah oui, mais par contre, c'est très intéressant et vous en sortirez grandi, n'est-ce pas ? Moi, j'ai une explication très simple après la lecture de cet article. C'est que c'est un studio qui faisait chier, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un studio qui est beaucoup trop cher, c'est-à-dire qu'ils sont à San Francisco et que, à mon avis, ils ont trouvé là une bonne occasion de délocaliser un studio où les employés coûtaient trois fois plus cher qu'au Canada, par exemple.
Ouais.
Second point, c'est un studio, visiblement, où les gens allaient souvent au clash avec Electronic Arts. Donc, au bout d'un moment, vous êtes bien gentil, mais vous faites chier, cassez-vous, voilà. Et puis voilà, tout simplement, à plus le fait que le projet était sur des mauvais rails, qu'il y avait tout un tas de problèmes. Alors par contre, petite réaction, parce que j'ai entendu ici et là, ah oui, quand même, après la lecture de cet article, je trouve quand même que c'est un peu 50-50, les torts sont un peu partagés, etc. Alors là, je lève un peu les yeux au ciel quand même, parce que bon. Alors certes, il y a eu des problèmes dans le studio. Certes, par exemple, il y a eu le fait que ils ont adopté une structure à la Naughty Dog, c'est-à-dire, tu sais, t'as pas une structure bien hiérarchisée et tout. Quand tu veux faire un truc, il faut que tu ailles voir machin, etc. Ils ont adopté une structure à la Valve, à la Naughty Dog, sauf que quand forcément t'as pas trop d'expérience dans ça, il te faut un temps d'adaptation. Et forcément, il y a des ratés. Très bien. Et par exemple, un des ratés, c'était que Amy Henning, donc qui était une des personnes qui avait le plus d'expérience dans ce type de structure, s'était rendu compte qu'ils y arrivaient pas et du coup qu'elle avait tendance, par exemple, à se mêler de tout, y compris de domaines où elle est pas forcément bonne, comme le game design, par exemple.
Ouais.
Ça, très bien. Mais, par exemple, pour résoudre ce problème, visiblement, le problème, c'est que chez Naughty Dog, elle avait quelqu'un pour l'assister dans ce domaine-là, qui faisait le lien entre elle et les équipes. Et chez Visceral, elle avait pas cette personne-là, en fait. Une solution, ça serait de mettre quelqu'un de confiance pour l'assister. Sauf qu'il y avait une contrainte. C'est que, chez Visceral, ils pouvaient pas embaucher.
C'est
et
ça.
Pourquoi ils pouvaient pas embaucher? Parce que les employés à San Francisco, ça coûte trop cher, et que Electronic Arts leur avait dit, non, vous pourrez pas embaucher. Le fait est que Electronic Arts a créé un environnement toxique, en les empêchant de recruter des gens, parce que, ben, quand t'as pas assez de monde pour faire le projet, et qu'on te dit, ah, en fait, on va aller chercher ces gars qui sont au Canada, et que finalement, on les met pas, et que le projet il traîne, et que puis finalement on met une autre équipe du Canada là-dessus, et que les mecs à San Francisco ils se rendent compte qu'en fait les mecs du Canada ils sont là pour piquer leur boulot, voilà, ça crée une mauvaise ambiance qui fait que le projet il se plante. Oui, forcément, quand tu mets des exigences délirantes, par exemple que tu leur dis il faut que vous fassiez un jeu de la qualité d'Uncharted 4, sauf que Naughty Dog ça fait 10 ans qu'ils sont sur Uncharted et qu'ils ont l'expérience pour le faire, et que toi t'as une équipe qui déjà est pas nombreuse, on t'empêche de recruter, et qu'en plus on te dit, ah oui, mais faut que tu fasses la même qualité de, que ces mecs qui ont 10 ans d'expérience.
Avec un moteur qui est pas fait pour ça.
Voilà, c'est délirant, quoi. C'est totalement délirant. Donc pour moi, cet article, c'est très révélateur de l'attitude d'Electronic Arts. Encore une fois, je nie pas le fait qu'il y ait des problèmes à l'intérieur du studio. Mais, quand tu fais tout pour saboter un projet, bah oui, bah à un moment donné, bah, ça marche pas. Voilà.
Il y a plusieurs personnes qui le disent d'ailleurs, hein, dans l'article. Ils savaient, en fait, que le projet pouvait pas aboutir. c'était pas possible. Ils avaient trop de problèmes avec le moteur, parce que le moteur, il est très bien pour faire des FPS. Le problème, c'est quand tu veux faire un TPS, parce qu'en fait, Visceral, c'est eux qui ont fait Battlefield Hardline, et ils ont déjà eu beaucoup de mal à développer un FPS avec ce moteur-là. Alors, en plus, faire un truc avec des features innovantes, une ambition assez impressionnante, parce que c'était un projet qui était très 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 ambitieux, avec très peu de gens finalement. Rien que sur la pré-production, ils étaient 30. Et puis là, au moment où ils ont appris leur fermeture, ils étaient 80. C'est que dalle, hein. Pour Uncharted, c'est 200 personnes, hein. Et puis finalement, EA Motive, donc, est allé faire Battlefront 2, la campagne, alors qu'ils devaient aider sur le Star Wars de Visceral, finalement, ben voilà. Ils se sont fait, en fait, abandonner de toutes parts, et puis je pense que les pauvres, enfin, travailler dans une ambiance comme ça, où tu sais que ton projet, il va mettre la clé sous la porte, d'un moment à un autre, c'est pas un environnement serein dans lequel travailler, quoi.
En plus, moi, ce qui me dérange, c'est par exemple, on te dit, regardez cette démo, là. Vous vous rappelez la démo de l'E3 2016 où t'as le mec qui sort de la cantina et tout, et puis t'as le croiseur au loin, etc. Vous voyez ce moment où il y a le personnage qui pose la main sur la porte ? Eh bien, rien que pour faire cette animation, ils ont passé des mois de polish pour la faire. Et ils donnaient cet exemple pour illustrer le fait que c'était n'importe quoi à Visceral, etc. Sauf que, je suis désolé, mais si on arrêtait de demander au studio de faire des démos de jeux qui n'existent pas, peut-être qu'ils pourraient consacrer leurs ressources à faire un vrai jeu plutôt que de faire un trailer qui décoiffe. Et pourquoi ils ont passé des mois à faire cette animation du mec qui pose sa main sur la porte? Parce que c'est comme ça sur Uncharted. Les mecs, c'est des dieux quand il s'agit de faire des animations ultra détaillées, etc. Et quand on te met la pression comme ça, qu'on te dit tu vas être à l'E3, ça va être ta première vidéo, ça va être la première impression, et que tu sais que la première impression dans un jeu vidéo, c'est très important, bah oui, tu dépenses des ressources folles sur des détails à la con au lieu de te concentrer sur le jeu, en fait. Et c'est pareil avec le Frostbite. On force un studio à bosser avec un moteur qu'il ne maîtrise pas et qui n'est pas adapté pour faire des TPS. Vous croyez pas que c'est suffisant comme handicap déjà, ça plus le fait qu'ils peuvent pas recruter, qu'ils peuvent pas machiner, qu'ils peuvent pas faire ci, qu'ils peuvent pas faire ça, qu'ils ont des exécutifs sur leur dos qui leur disent oh, en fait on fait comment $1 milliard de profit avec votre jeu solo là, ah en fait mais il y a pas de Jedi dans votre jeu, je suis désolé, vous faites un jeu avec des bandits etc. Mais Star Wars c'est des Jedi, bordel.
Il est où Chewbacca? Pas...
Voilà, c'est ça, il est où Chewbacca, quoi. À un moment donné, moi je suis désolé, il faudrait arrêter cette culture du « on va montrer un jeu 3 ans à l'avance ». C'est totalement absurde.
Non mais là, surtout qu'il n'existe pas le jeu en fait, c'est ça le problème.
Oui, c'est ça le truc. Ça illustre parfaitement tous ces jeux qu'on nous montre à l'E3 avec un teaser à la con comme celui-là. Et en fait, il n'y a pas de jeu derrière, quoi. Je comprends pas que les éditeurs se disent encore aujourd'hui « ça serait une bonne idée de faire ça, quoi ». Je comprends pas.
De toute façon, nous, quand on regarde l'E3, c'est pour voir quoi ? C'est pour voir du gameplay. C'est pas pour regarder des cinématiques ou ce genre de choses-là, on s'en fout. Et à chaque fois, quand on regarde l'E3, qu'on voit des conférences, on dit « ah, ce jeu-là, il avait intéressant, mais il n'y a pas de gameplay ». C'est-à-dire que là, en fait, on a une vidéo, on a juste vu l'univers, mais bon, c'est l'univers, c'est Star Wars, quoi. Si tu veux, dans l'inconscient collectif, tout le monde connaît Star Wars. C'est un truc ultra populaire, enfin, je connais personne sur Terre, je crois que tu vas parler même dans un pays où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de radio, tu vas leur parler Star Wars, il va connaître au moins deux noms, quoi. Et moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que les mecs, ils développent des trucs, des fois, ils s'amusent à développer des choses qui ne sont même pas implémentées dans le jeu de base. Et t'as fini le jeu, tu dis, mais attends, c'est bizarre dans le jeu, j'ai pas vu ce passage-là et tout ça. Parce que c'est des trucs qui ont été créés uniquement pour un moment T. Et après, ça a squeezé du jeu complètement. Et du coup, les développeurs, ils perdent vachement de temps sur le chose-là. Là, c'est vraiment une démo qui ne sert à rien du tout. Et Star Wars, enfin, malheureusement, le seul titre de Visceral qui m'intéressait est de EA, tu vois, par rapport à ce qui concernait le packaging Star Wars. Finalement, il verra pas le jour, quoi.
Maureen, j'avais une dernière question pour toi, avant qu'on clôture ce podcast.
Oui.
Est-ce que le cinéphile que tu es, adepte de Star Wars, hein, d'ailleurs, teaser, Maureen prépare une vidéo sur Star Wars pour sa chaîne, on en reparlera, n'est-ce pas ? Est-ce que tu trouves pas un peu curieux que ce soit dans les bouquins, que ce soit dans les films, on n'ait aucun problème à faire des œuvres qui parlent d'autre chose que les Jedi ?
Ouais.
Et que dans le jeu vidéo, bizarrement, il faut des Jedi ?
Ouais, je trouve ça assez étonnant. Surtout, en fait, avec le précédent créé par Rogue One. Parce que Rogue One, en fait, c'est le seul film de la saga Star Wars où il n'y a pas de Jedi. Celui-là, il a quand même engrangé plus $1 milliard. Et ça, en fait, ça aurait dû donner raison à Amy Henning et à Visceral par rapport aux marketeux et aux dirigeants d'Electronic Arts. Ça, en soi, ça aurait dû leur donner raison. Mais c'est vrai que, après, tu peux pas vraiment comparer un format jeu vidéo qui a besoin de vendre des millions d'exemplaires pour être rentable à un bouquin, un comics ou même une série télé que Même en série télé, ils le font pas, en fait, en animation, des trucs qui ne parlent pas de Jedi. Mais, tu vois, typiquement, un comic, c'est un bouquin. Oui, parce que c'est un univers étendu et parce que, clairement, ça s'adresse à une cible qui est beaucoup plus niche et qui est capable de savoir que Star Wars, ce n'est pas que des sabres laser. Le problème, c'est que le jeu vidéo, pour être plus rentable, enfin, pour être rentable tout court, en fait, a besoin de parler au plus grand nombre. Moi, je me rappelle à l'époque d'un jeu GameCube qui était sorti et qui se...
Rogue Squadron.
Même pas. Je pensais à Bounty Hunter.
Ah oui.
Pour le coup, c'était un TPS. Et qui était donc sur Jango Fett. J'ai jamais regardé combien il s'était vendu, mais c'est le seul qui me vient en tête comme ça, en termes de TPS, qui parlait pas du tout de Jedi.
T'as aussi, bah, comme tu disais, Rogue Squadron. Sur Nintendo 64, on avait un qui s'appelait Shadow Empires, où tu contrôlais un espèce de Han Solo, tu vois. Enfin, les jeux Star Wars où tu contrôles pas un Jedi, dans le passé, il y en a déjà eu pas mal.
C'était pas les mêmes valeurs de production, par contre. Je pense que ça va avoir
oui,
du mal à être comparable.
Cela dit, à l'époque, le Rogue Squadron sur GameCube, c'était l'un des plus beaux jeux que j'avais jamais vu de ma vie.
Ah oui,
hein.
clairement.
Non, mais oui.
Mais en fait, le truc, c'est que Star Wars, c'est deux choses. C'est les vaisseaux spatiaux et les combats, et les sabres laser. Mais en fait, si t'enlèves les deux, ce qui a priori était le cas du projet d'Amy Henning, je comprends, en fait, pourquoi un directeur, enfin, la direction se dit, c'est vraiment Star Wars, ça.
Ouais, mais encore une fois, t'as l'exemple de Rogue One à côté, quoi. Il a cartonné,
oui.
Rogue One.
Mais c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Surtout qu'en plus, il était censé se dérouler entre l'épisode 4 et 5, qui sont quand même deux des épisodes les plus appréciés de la saga, avec une troupe de scoundrels en anglais. Enfin,
de bandits.
Ouais, de bandits. Enfin, des Han Solo en puissance.
Contrebandiers.
Clairement, oui, de contrebandiers. Clairement, il y avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour faire penser à un proto-Faucon Millennium, en fait. C'était intéressant de voir autre chose de la saga que juste les deux figures phares.
Non, mais bien sûr,
avoir,
enfin, même, tu parlais du jeu avec Boba Fett. À l'époque, quand ils avaient annoncé Prey 2, qui devait être un jeu où on jouait un chasseur de primes, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Boba Fett. Tu vois, je voulais trop jouer à ce jeu-là parce que ça me faisait penser directement, ça me renvoyait à Star Wars. Enfin, Star Wars, pour moi, c'est un peu, si tu veux, une licence où tu peux quasiment tout faire. Tu peux faire des jeux de course.
Exactement.
Tu peux faire des jeux de combat de sabre laser. Tu peux faire, enfin, t'as plusieurs choses. Tu peux même faire des RTS Star Wars. Enfin, t'as tellement de possibilités avec cette licence-là. Tellement l'univers est vaste que tu peux te permettre de tout faire. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est de toujours se limiter au combat, voilà, parce qu'il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas Maître Yoda, il n'y a pas Dark Vador. Donc les gens, ils vont pas reconnaître.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, il écrit Star Wars sur la boîte. On sait très bien de quoi ça parle. Enfin, le rien que l'univers.
Je pense que ça a été l'erreur de Disney, en fait, et de Lucasfilm, du coup, d'utiliser en fait un deal d'exclusivité avec un éditeur sans vraiment savoir comment se comporte véritablement Electronic Arts en termes de réalisme, en fait, par rapport à ses studios et à ses projets. Electronic Arts a cette tendance à broyer un petit peu tout ce qu'ils ont et à aller vers le plus rentable. Et le problème, c'est qu'un jeu comme ça, en fait, si tu le donnes pas directement clé en main à Naughty Dog, pour le coup, parce que clairement Naughty Dog serait occupé de ce jeu, ça aurait fait un énorme jeu. Je vois les trailers directs, en fait, les gens se seraient touchés dessus, tu vois. Mais là, en fait, le problème, c'est que il y avait absolument pas toutes les clés qui étaient réunies, en fait, pour faire de ce projet un projet qui soit pérenne. C'était juste pas possible. Il y avait l'éditeur qui poussait, qui avait des velléités différentes en termes de finances. Il y avait aussi le fait qu'il faut composer avec Lucasfilm, qui a aussi des idées très concrètes sur ce qu'il veut, et du coup, ça rend les échanges beaucoup plus compliqués.
Dès que tu commences à toucher à l'univers Star Wars, faut les consulter à chaque fois.
Exactement.
Apparemment, il y a eu des allers-retours de fou à chaque fois.
Ouais, mais ça rend les choses beaucoup plus lentes. Et puis voilà. Enfin bref, c'est un projet qui était voué à l'échec.
Juste une dernière chose. Quant à des gens qui disent à Amy Henning, au fait, Half-Life, elles sont Gravity Gun. Vous, c'est quoi votre features spéciale pour illustrer votre jeu? Tu vois que c'est des mecs qui ont rien compris à Uncharted, en fait.
C'est ça. Non, mais c'est vrai.
Non, mais je suis désolé, Uncharted, il a pas la feature. Uncharted, c'est le roi de l'affordance. Je vous renverrai à une vidéo de Exhaust, qui est un YouTuber que j'apprécie beaucoup.
Passionnant.
Il parle de ça. Uncharted, c'est juste les dieux sur l'animation, tu sais, les feedbacks visuels, sonores, etc.
Bien sûr.
C'est absolument pas un jeu révolutionnaire sur le plan du gameplay. C'est un TPS ultra classique.
Et même, je dirais qu'il est même pas bon en TPS, tu vois.
Voilà. Et le simple fait de poser cette question-là, alors que les mecs sont en train de faire un Uncharted-like, pour moi, ça illustre le fait qu'ils sont complètement à l'ouest. C'est les mecs qui pose la question débile, qui va pousser l'équipe à bosser sur des trucs qui sont inutiles dans un Uncharted-like, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, qui est que Faire un jeu avec énormément de feedback comme un jeu à la Naughty Dog, ça demande énormément de ressources, énormément de moyens, et que t'as juste pas le temps, en fait, de te préoccuper du Gravity Gun, tout simplement.
Non mais, en fait, pour faire simple, dans Uncharted, qu'est-ce qui marche bien? Bah, ce qui marche bien, c'est que le personnage de Nathan Drake, il est sympa, il est marrant, il te fait rire. T'as un gameplay qui est composé en trois phases, qui est donc la phase de TPS, comme tu l'as dit, qui est pour moi la moins bonne en fait de tous, la phase exploration, et puis les phases un peu, tu sais, les qui t'en mettent plein la vue, spectaculaire, où t'as tout qui est détruit, et puis tu vois, t'as Nathan qui est là, il fait « Oh non, 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 non !» Et c'est ça qui fait, si tu veux, c'est l'enrobage global. Mais en termes vraiment de TPS pur et simple, moi je trouve que...
Il y a zéro innovation.
Ouais, et même, enfin, je trouve pas... que les gunfights, ils sont mous, quoi. C'est des trucs que t'as déjà vu et revu dans plein de jeux. Donc c'est pas là où ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs dans, comme on l'a dit, les animations, les qualités faciales, le jeu des acteurs et tout ça. Là-dessus, il y a rien à dire, ils sont top. Mais par contre, enfin, moi, ce que je trouve nul avec EA et Visceral Games, c'est que, tu vois, enfin, Star Wars, mais je suis sûr qu'ils auraient pu atteindre facilement les 5 millions d'exemplaires avec la licence qu'ils ont, quoi, Star Wars. Déjà, rien que Uncharted 4, il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires sur PS4 seul. Quand tu vois un jeu comme Tomb Raider, il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires et tout ça. Un jeu avec une licence comme Star Wars, et encore plus s'il est réussi, ça serait vendu. Et encore, j'ai envie de te dire, même si le jeu aurait été dégueulasse, tu vois, comme les jeux qu'on avait eu à l'époque, là, Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, épisode 2, La Guerre des Clones, et épisode 3, La Revanche des Sith, qui étaient juste des adaptations des films, qui étaient pas des jeux exceptionnels non plus. Mais c'était des jeux qui se vendaient par parallèle parce que juste parce que c'était Star Wars. Et je me rappelle très bien encore quand j'étais gamin, j'étais allé dans mon magasin de jeux vidéo préféré et je lui ai demandé pourquoi le jeu Star Wars coûtait aussi cher alors qu'il était d'occasion. Il me disait parce qu'il y a écrit Star Wars dessus, c'est un jeu qui se vend. Voilà. Raison pure et simple, c'est Star Wars donc ça se vend.
Bon, on clore là le dossier viscéral. Je propose que le jour où ils se mettent à ouvrir des studios dans des pays du tiers-monde parce que ça coûte pas cher, bah qu'on arrête tous de bosser, tu vois, hein, parce que de toute façon, ça coûte pas cher là-bas, donc on peut pas lutter. Enfin bref. Voilà, voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Fuck yeah.